Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Adorables, le podcast consacré à l'adolescence réalisé par des adolescents. Je suis Ava Jacob, élève de terminale, et je vous propose d'explorer aujourd'hui ce que pensent les enseignants qui nous font cours. Que cachent-ils derrière leur masque professionnel? Sont-ils aussi impassibles et inflexibles qu'ils en ont parfois l'air? Qu'est-ce qui leur plaît ou au contraire leur déplaît quand ils sont face aux élèves? Pour le savoir, je suis allée à la rencontre de 6 professeurs de collège et lycée auxquels j'ai posé les mêmes questions. Leurs réponses ont été divisées en 2 volets que vous aurez, je l'espère, plaisir à découvrir. C'est parti pour le premier trio. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter, notamment en donnant votre matière et le nombre d'années d'enseignement ?
Bonjour, je suis professeur d'histoire-géographie et j'enseigne depuis 30 ans.
Je suis professeur de PS, ça fait déjà 20 ans que j'enseigne le PS.
Je suis professeur en physique-chimie et j'ai un peu plus d'un an d'enseignement.
Est-ce qu'enseigner est la seule profession que vous ayez exercée jusqu'ici et est-ce que vous envisageriez d'en changer ?
En fait, j'étais étudiant avant, donc j'étais doctorant avant. Et actuellement, non, je n'envisage pas de changer de métier.
J'ai fait d'autres professions, mais plus comme job d'été, d'étudiante. Oui, j'ai passé mon temps à vouloir changer de profession et apparemment ça n'a pas bien marché puisque je suis toujours prof.
J'ai fait beaucoup de différents métiers lorsque j'étais étudiant. Aide de ménageur, manutention, ouvrier, ouverture du courrier, animateur. Et j'ai fait aussi éducateur sportif dans certaines structures. Et je pense avoir trouvé ma voie, je ne me vois pas changer d'ici là.
Est-ce que selon vous, il faut être dur pour exercer ce métier de professeur ?
Je ne dirais pas dur, mais je dirais juste. Et en tout cas, il faut que les élèves aient une représentation de l'enseignant qui soit assez ferme.
Je dirais qu'il faut être bienveillant avec les élèves, pas forcément dur. Je pense qu'il y a une distinction à faire entre fermeté et autorité. Il faut être suffisamment ferme pour qu'il y ait un climat bienveillant dans la classe, mais sans être autoritaire.
Je pense comprendre peut-être dur dans le sens maîtriser en fait la classe, l'espace, etc. Moi, je dirais en fait que c'est un des métiers, c'est peut-être pour ça que je le fais encore, où on apprend en permanence. La relation avec les élèves, elle se construit d'année en année, de classe en classe. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et oui, je dirais moi comme professeur au tout début de carrière, parfois pour me faire entendre quand les classes étaient bavardes, j'avais une tendance à élever la voix, à faire plus de bruit qu'eux, et eux-mêmes élevaient la voix parce que, et à un moment donné, j'avais plus de voix au bout d'une semaine et je me suis dit, il va falloir que je fasse différemment. Et on apprend au contact des élèves, on apprend au contact aussi des gens qu'on rencontre, parce que quand on est jeune prof, c'est en discutant avec certains collègues ou parfois avec des élèves, avoir le retour de certains élèves. Et voilà, donc je dirais pas dur, je dirais que finalement on apprend à rentrer dans un personnage de prof et à construire un peu comme un acteur. Pour moi après, c'était un peu comme faire du théâtre. Et je me dis quel prof j'ai envie d'être en fait. Et ça, je dirais que j'ai construit ça sur 30 ans. Donc c'est pas dur, c'est comment on se positionne avec ce qu'on est nous.
Comment faites-vous pour donner l'impression que rien ne vous affecte pendant un cours, ni des virus, ni le manque de sommeil, ni même l'envie d'aller aux toilettes ?
Alors, je sais pas si je vais bien répondre à ta question, mais en fait, moi, quand je suis au travail, en fait, je suis un acteur. Je suis pas du tout pareil dans la vie de tous les jours. Et en fait, si tu veux, je viens, je suis en tant qu'acteur, j'ai mon rôle d'enseignant. Et dès que je suis sorti du cours, bah, s'il y a des choses qui m'affectent à l'extérieur, que ce soit maladie, fatigue, etc., bah, ça m'affecte, mais dans la vie personnelle, quoi.
Je fais en sorte d'être pleinement concentré sur la séance du jour que j'ai préparée à l'avance, que j'ai anticipée, que des fois j'ai un peu visualisé et je sais exactement tout ce que je dois faire et puis après la séance se déroule quoi.
Qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez vos élèves ?
Bah, tout. je parle pour moi, mais en tout cas, je pense qu'on ne fait pas ce genre de métier si on ne regarde pas ce que font les élèves, ce qu'ils ressentent. Et mon objectif, c'est qu'ils se sentent le mieux possible et qu'ils s'améliorent dans la vie de tous les jours. Quoi.
Qu'est-ce qui me touche ? Bah, des fois, certaines réactions qu'on peut avoir quand on pose une question ou une réponse qui n'est pas forcément attendue d'un ou d'une élève, qui peut parfois être un peu rigolo.
Moi, ce qui me touche à chaque fois, c'est quand je vois un élève progresser. Quels que soient en fait ses progrès, ils ne sont pas forcément académiques, ça peut être aussi des progrès en termes de comportement. Quand je vois un élève un peu s'épanouir alors qu'il était un petit peu renfermé, quand je vois ou je la vois avoir des camarades, c'est ça qui me touche, c'est de voir en fait un petit être humain qui s'épanouit, qui trouve sa place et qui commence à prendre assez confiance en elle ou en lui pour essayer, tester des choses. Ça m'a toujours touchée. Parfois, même parfois, quand je lis des copies d'élèves, parfois j'ai des larmes aux yeux en me disant je vois en fait tout le travail qui a été fait par l'élève pour arriver jusque-là. Donc voilà, c'est ça. C'est de se dire, en fait, notre boulot, il a quand même un petit peu un sens. Je suis un peu utile. S'il y en a un ou une dans la classe qui a pris le truc, à qui on a transmis, je me dis, bon, c'est ça qui me fait plaisir et qui me touche chez les élèves, quoi.
Y a-t-il des choses dont vous êtes témoin en classe et que vous choisissez d'ignorer ?
Non.
Non, parce que moi, je dirais, au-delà même de mon travail de professeur, je suis adulte, en fait, et on ne peut pas ignorer si c'est des choses négatives, en particulier. Voilà, ça serait d'être dans le déni, ça serait pour moi une forme de lâcheté, et c'est notre rôle d'adulte et notre rôle de professeur que d'intervenir. Voilà, on est aussi des éducateurs et pas seulement des transmetteurs de savoir. Donc, moi, je dirais non, mais...
Oui, ça peut arriver. En fait, tout dépend du type d'élève et de ce qui se passe en classe. Et en fait, on a un degré de tolérance, on va dire, de petites bêtises qui peuvent, si on intervient, en fait, couper le cours et faire en sorte qu'on perd beaucoup de temps et de reprise de cours. Et d'autres choses où je suis intraitable, il y a certaines fautes ou vocabulaire, ou bêtises, etc., où là, on est intransigeant et là, quoi qu'il arrive, je m'arrête et j'interviens.
Est-ce que vous vous êtes rendu compte, au fil des années d'enseignement, que vous aviez des biais ou des stéréotypes vis-à-vis des élèves ?
Oui, oui. Et du coup, moi-même, j'ai été choquée quand je m'en suis rendu compte. Par exemple, pendant des années, j'ai fait un petit peu comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que je plaçais filles à côté des garçons. Et notamment quand j'étais professeur en banlieue où il y a eu des établissements plus difficiles, je me disais, je vais mettre la fille la plus calme à côté du garçon qui gigote dans tous les sens. Et puis un jour, mais assez récemment, peut-être il y a 8-10 ans, je me suis dit, mais c'est pas à la jeune fille calme de supporter en fait l'agitation du garçon. Et puis parce que, voilà, c'était une petite fille de 6e qui m'avait raconté l'ambiance de sa classe et qui me dit, de toute façon, c'est des garçons qui sont comme ça. Et je me suis rendu compte en l'écoutant que finalement, les filles très jeunes rentraient dans cette posture de dire, en fait, voilà, on va gérer le bruit des garçons, etc. Donc moi-même, j'ai eu ce biais d'associer en fait la fille plus douce, plus calme, plus scolaire, plus studieuse, qui sera en fait à côté du garçon plus agité, jusqu'au jour où je me suis dit, mais les filles, elles sont des élèves comme tout le monde, elles n'ont pas à supporter ce soin en fait aux élèves. Et je le fais plus. Je fais plus de plans de classe, j'aime pas les faire. Je vais déplacer ponctuellement les élèves qui me gênent, qui sont bavards. Mais j'ai totalement abandonné ce placement fille-garçon. Donc voilà, j'avais un biais en fait.
Alors oui, le biais de l'affectif, par exemple des élèves qui, avec qui je m'entends bien, d'avoir peut-être tendance à les surévaluer. Donc je me remets bien dans mon rôle d'enseignant, je regarde bien leur niveau et je les évalue à leur juste valeur. Enfin, ça c'est un des exemples, mais il peut y avoir d'autres exemples. Les différences filles-garçons au niveau des barèmes également, donc à chaque fois se remettre en question pour être le plus juste possible en fait.
Les stéréotypes, je sais pas, les biais, oui probablement, parce que c'est un peu inévitable. Enfin, moi-même, ayant fait des études en sciences cognitives, je sais très bien qu'il y a des biais cognitifs partout, de la correction des copies, jusqu'au fait d'interroger de façon privilégiée les garçons ou les filles. Je sais qu'il y a plein de biais. Si on cherchait vraiment, oui, on trouverait des biais.
Selon vous, c'est quoi un bon élève ?
Un bon élève ? Ah, c'est un élève qui travaille sérieusement, déjà, qui est calme en cours, qui est attentif, prêt à travailler, qui, lorsque je lui dis quelque chose, il m'écoute directement et il fait ce que je lui dis de faire. Il travaille régulièrement et puis, il s'en sort bien dans la matière, il a des bons résultats.
Alors, un bon élève, selon moi, ça a plusieurs critères. Il y a le critère de tout ce qui est politesse, éducation, et on a aussi tous les critères type performance, compréhension, travail.
Moi, je dirais qu'un bon élève, c'est un élève qui arrive en classe et joue le jeu. Alors, quand je dis joue le jeu, c'est-à-dire joue le jeu du cadre, parce qu'on a un cadre, je trouve, de l'éducation nationale en France, très, très formel, très formaté, très normé, et qui va comprendre quand même que ce cadre contraint peut lui apporter quelque chose. Donc, à partir du moment où l'élève arrive disposé à recevoir, à ce qu'on l'aide et à apprendre, voilà. Pour moi, c'est ça un bon élève, en fait.
Qu'est-ce que vous ressentez quand personne ne participe dans votre classe ?
En fait, ça arrive rarement, voire jamais, en fait. En général, dès que je pose une question, il y a toujours au moins une personne qui lève la main et qui participe.
Ça arrive souvent quand on se retrouve seul. Et moi, je ressens de l'ennui en me disant « mais qu'est-ce que je fais là, de toute façon ?» Et puis, à un moment donné, je m'accroche quand même. Et il y a toujours un élève gentil ou une élève qui vient vous sauver. Donc, ça ne dure pas trop longtemps, quoi.
Alors, c'est souvent les classes les plus dures. J'ai envie de dire les classes qui vont être agitées, mais où il y a beaucoup d'énergie. Je vais avoir plus de facilité, on va dire, mettre un lion en cage. C'est peut-être plus facile que de pousser des gens avec peu d'entrain pour les faire travailler. C'est plus fatigant, ce type d'élèves, que des élèves qui bougent.
Au contraire, qu'est-ce que vous ressentez quand tout le monde bavarde dans votre classe ?
Ça arrive assez rarement aussi, ça dépend des années et des classes, mais si ça fonctionne pas, ça peut être un peu frustrant, mais en général, en faisant un plan de classe qui est bien équilibré, filles et garçons, en général, ça se passe plutôt bien.
Oui, je suis d'accord, moi je ressens toujours un peu d'agacement, mais après, très vite, souvent on va faire taire en fait, les bavards ou les bavardes, et essayer de recréer justement un cadre où tout le monde peut se concentrer.
Alors après, en EPS, c'est un peu différent. Il y a des phases où il faut absolument qu'il soit silencieux, on va dire sur les consignes, sur la compréhension des règles. Et il y a d'autres phases où c'est très bien, parce qu'en fait, il communique, ça dépend des communications, mais moi, mon objectif aussi, c'est qu'il communique dans les sports collectifs, pour « je suis placé, passe-moi la balle », et j'en passe. Il y a toutes les interactions aussi de solidarité, d'entraide, de conseils. Donc en fait, ça fait partie intégrante de mon cours.
Est-ce que vous pensez que tout ce que vous dites en classe est intéressant ?
C'est pas plutôt aux élèves de répondre. Moi, j'essaie de faire en sorte que ça soit le cas.
Alors, j'ai envie de dire, comme dans toutes les matières, il y a des choses intéressantes, des choses moins intéressantes. Mais mon objectif, c'est vraiment que les élèves voient tout, parce qu'après, il y a certaines choses qui vont leur servir et d'autres non. Tout comme je pense dans toutes les autres matières. Mais après, moi, je suis pas à la place de l'élève pour savoir qu'est-ce qui va pouvoir peut-être lui servir plus tard. Donc, moi, mon objectif, c'est qu'il puisse tout voir.
En fait, un cours, c'est un tout. Il y a à la fois le savoir qu'on va transmettre et puis à la fois la façon dont on va le transmettre. La question aussi qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui n'est pas intéressant? Il y a parfois des savoirs très complexes à transmettre qui peuvent ennuyer les élèves, quoi. Mais ça veut dire que là, il faut aussi, c'est à nous de faire comprendre aux élèves, d'augmenter leur exigence intellectuelle, de leur faire rentrer et accepter une certaine complexité intellectuelle. Parce que oui, au départ, le savoir, ça peut être quelque chose d'assez riche. Donc il faut créer aussi, il faut aussi leur montrer que parfois il faut dépasser la difficulté, dépasser l'austérité de ce rapport au savoir. Ça, c'est pas évident de mettre en place des stratégies, mais de faire comprendre que tout n'est pas du divertissement. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est aussi des sociétés où tout est basé sur le divertissement. Dès que quelque chose dure plus de 3 secondes, tout le monde s'ennuie, on scrolle, on passe d'une chose à l'autre. Donc retrouver le savoir, c'est du temps long. La transmission, c'est du temps long. Donc comment faire rentrer tout ça dans une classe Voilà, donc je dirais pas, c'est pas de l'ennui, c'est la difficulté, la complexité qui peuvent être parfois confondues avec de l'ennui.
Qu'est-ce que vous aimez le moins dans ce métier ?
Corriger les copies, je pense.
Les copies, et encore les copies.
Ça va être plus toutes les blessures qui peuvent arriver en EPS qui m'embêtent par rapport aux élèves. Après, moi je suis sportif de base, donc je sais que c'est des choses qui arrivent, mais c'est toujours ennuyeux.
Le premier volet de cette émission s'achève. Merci aux 3 professeurs qui se sont prêtés au jeu de l'interview. 3 autres répondront à mes questions dans le second volet, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur Instagram ou sur le site de l'école alsacienne. À bientôt !